Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Maëva, bonjour.
Bonjour.
Et Dorian.
Bonjour.
Bonjour. Tous deux, pour Maëva, vous êtes donc au service pastoral de cette organisation de la fête de la transhumance 2025. Et Dorian, lui, vous êtes à la coordination de cette organisation.
Oui, tout à fait. C'est ça, c'est une fête qui est co-organisée par deux structures, le service pastoral de la Drôme et le syndicat de la Clairette et des Vins du Diois.
Alors, cette année, il y aura 3 dates pour ces rendez-vous, à commencer samedi 14 juin, suivi du 15 juin et pour finir le 22. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, comme tous les ans, sur cette transhumance?
Oui, c'est une fête qui est faite sur un format similaire déjà depuis 2 ans. C'est la 3e année qu'on est à la fois à Châtillon-Diois, puis sur un 2e week-end au Col de Rousset à Saint-Agnan-en-Vercors. Donc 3 dates, le 14 juin dans le village de Châtillon, le 15 juin à l'Alpage de la Moutière, c'est en direction du col de Menet, et puis le 2e week-end, donc juste une semaine après, ce sera le 22 juin au col de Rousset. Voilà, donc un format qui se ressemble avec donc tout un programme développé par différents partenaires, à la fois le volet pastoral avec dont Maëva pourra nous parler pour la partie transhumance, et puis le syndicat de la Clairette qui est aussi co-organisateur avec tout un programme viticole. Voilà, nous sommes accompagnés par de nombreuses structures partenaires, des associations du territoire, à la fois de Châtillon et de Saint-Agnan, qui, elles, nous aident à organiser, à la fois dans la force bénévole et dans les propositions qui gravitent autour, les marchés de producteurs, les repas, la partie logistique, la tenue des bars. Donc voilà, nous sommes très nombreux derrière ce beau programme.
En premier lieu, c'est quand même la ville de Châtillon aussi qui accueille donc cette transhumance pour la 3e année, c'est ça?
C'est ça, on est accueilli par la commune de Châtillon-Diois sur le premier week-end, qui est une très belle commune, un village médiéval, très beau, avec de très nombreux habitants qui ont envie de s'impliquer dans l'organisation des événements, et puis un village médiéval et classé plus beau village de France, donc c'est vraiment un très bel accueil qui nous est fait, et Châtillon-Diois est, il me semble, la plus grande commune pastorale de la Drôme, en tout cas en superficie, avec un très grand nombre d'alpages, donc c'est aussi un axe majeur de cet accueil.
Et puis aussi Châtillon pour ses vignobles et sa clairette, c'est qui est un partenaire principal aussi de cette transhumance.
C'est ça, on a mis en valeur donc dans ce programme la partie clairette de Die, mais évidemment également les Châtillon-Diois, puisqu'on est accueilli par Châtillon. Et cette année, notamment, c'est les 50 ans de l'appellation Châtillon-Diois, donc ce sera l'occasion de le mettre à l'honneur.
Juste une question, cette tradition de la transhumance avait-elle lieu déjà à l'époque médiévale?
Oui, la transhumance, elle a lieu depuis très longtemps. Alors, elle est pratiquée de manière différente et elle est aussi pratiquée à l'étranger, hein, notamment en Afrique avec les peuples nomades qui suivent donc la ressource en herbe et en eau et donc déplacent le troupeau au fur et à mesure en fonction de ça. Et donc, c'est ce qui se pratique encore aujourd'hui. On déplace les bêtes en fonction de là où il y a la ressource en herbe. Donc, les troupeaux viennent du sud ou des plaines plutôt de la Drôme et vont en montagne, là où on va retrouver de l'herbe alors qu'en bas, elle sera moins importante ou aura séché. Donc on suit vraiment, c'est quelque chose qui est ancré et qui est ancestral, c'est pas nouveau du tout.
Au-delà des moutons, des brebis qui seront dans ce village, il y a aussi toutes les professions liées à ce domaine. Donc une rencontre possible avec ces acteurs.
Oui, alors on parle beaucoup de transhumance ovine, mais pas uniquement. Hein. Il y a aussi la transhumance des vaches qui se pratique beaucoup en Savoie, Haute-Savoie, mais aussi en Drôme. On a des alpages mixtes, ovins, bovins, équins. Et donc, le jour de la fête, on va pouvoir rencontrer des éleveurs, mais aussi des personnes qui transforment la laine. Donc, cette année, on a mis en place, il y aura des ateliers ainsi que des conférences. Donc, on aura deux conférences autour de la transformation de la laine et les ateliers pour que les petits et les grands puissent pratiquer. On aura du feutrage et du filage. Et ainsi aussi la tonte, parce que donc on a une démonstration, plusieurs démonstrations dans la journée de tonte pour expliquer aux personnes comment on obtient la laine. Et on aura aussi une présentation de travail de chiens de troupeau pour expliquer le métier d'éleveur et le travail des chiens.
Alors la laine est à l'honneur hein, pour cette transhumance, donc comme vous le disiez avec des ateliers, des démonstrations, des conférences également sur justement cette ressource naturelle et durable. Est-ce que ça fait quelques années quand même que l'on s'interroge aussi sur cette réappropriation de la laine pour une exploitation artisanale notamment. Est-ce qu'il y a des avancées qui seront peut-être énoncées?
Dans les deux conférences, il y en a une qui va être faite par Margot Jobet-Duval et qui va parler notamment de Mérylénos, qui est une association en fait d'éleveurs qui récolte leur, enfin qui après la tonte de la laine, la font laver, transformer et du coup revendent eux des chaussettes et aussi donc des produits finis, mais aussi des produits non finis comme du fil. Et donc Margot va justement nous expliquer comment les éleveurs peuvent se réapproprier le travail de leur laine et donc avoir le produit initial, donc la brebis, ensuite la tonte jusqu'au produit fini et la vente, parce qu'ils font aussi de la vente. Donc c'est aussi ce qu'on a voulu mettre en avant. On aurait souhaité avoir plus d'éleveurs parce qu'il y a quand même dans le en Drôme beaucoup d'éleveurs qui transforment de la teinture végétale ou autre chose pour transformer leur laine. Mais c'est une période qui est difficile pour eux parce qu'ils ont énormément de choses à faire entre les foins et la montée en alpage pour certains. Donc on n'a pas pu avoir autant de personnes que ce qu'on aurait souhaité, mais c'est déjà un bon panel pour expliquer aux gens tout ce qui se trouve autour de la laine.
Dorian, en plus de ces activités autour de l'ovin, est-ce qu'il y a donc des choses aussi proposées pour les enfants, les familles, ces journées?
Oui, c'est vraiment une journée pour tous. À Châtillon-d'Youa, on essaie de développer tout un programme pour les enfants, pour les familles, pour tous les publics. Donc on a de nombreuses propositions festives et culturelles. On a à la fois des fanfares, des repas, des dégustations et des ateliers pour les enfants, notamment autour des nichoirs, des hôtels à insectes, des balades à poney, des lotos, d'un jeu de piste. Voilà, donc il y a vraiment de quoi occuper toute sa journée sur Châtillon et de profiter d'une belle journée estivale.
Et on aura aussi des balades à poney, il y aura aussi les chevaux de Barakan qui seront présents, ainsi que les ânes.
Les ânes de la Fédération Nationale des Ânes et Randonnées, je crois que c'est ça l'intitulé. Donc voilà, l'idée c'est aussi de parler pratique de la montagne, pratique des espaces naturels et partage de ces très beaux espaces qui nous entourent.
Comme chaque année, il y a donc des festivités. Il y a aussi une exposition, celle de Fmur, auteur de bande dessinée. Un spot mis sur lui.
Oui, Fmur a réalisé de nombreuses affiches de la fête de la transhumance, notamment dans ses premières années. Et en tant qu'artiste, il y a une fondation, donc la fondation Fmur qui existe, le fonds de dotation, et ils viendront faire une exposition à la bibliothèque de Châtillon-d'Youa avec un temps de rencontre. Et puis, donc ça va durer pendant quelques jours, vous pourrez la voir sur plusieurs jours, mais notamment la journée de la fête de la transhumance, et elle passera aussi à la médiathèque d'Youa-Vercors par la suite. Donc c'est aussi l'occasion de découvrir un artiste local.
Et autour de ces journées, de cette journée et les suivantes, il y a aussi le bar restauration avec des propositions locales.
Oui, bar et restauration, eh bien, nous avons donc un gros axe qui est mis autour du bar de la fête et notamment de la déclinaison des vins du Diwa en cocktail, en mocktail, en plein. Enfin voilà, vous avez de quoi découvrir ça sous plein de formes et aussi de déguster ces produits auprès des viticulteurs. Il y a 17 caves de l'appellation qui seront présentes au sein du marché de Châtillon-Diwa pour la dégustation. Et un grand repas à midi qui met en valeur évidemment les produits locaux. Et en fin de journée, une grande soirée festive qui aura lieu et qui commencera juste après le deuxième passage du troupeau, puisque cette année, il y aura deux traversées du troupeau dans le village de Châtillon, ce qui est aussi une nouveauté majeure. Voilà, peut-être que Maëvan peut nous en parler.
Donc on aura une première traversée du troupeau autour de 9h, 9h30 le matin. Le troupeau restera à Châtillon, donc en bas du village, pour repasser le soir aux alentours de 17h, afin que les personnes puissent en profiter un maximum. Et donc avant le départ du troupeau, à 16h30, il y aura un moment d'échange avec l'éleveur, où les personnes pourront poser toutes leurs questions. Et ensuite, le troupeau partira vers le col de Menet et on le retrouvera le lendemain matin auprès de la Moutière à une arrivée autour de 11h30.
Il était un temps où on pouvait accompagner cette transhumance, c'est toujours possible ?
Alors non, du moins pas à Châtillon. Pour accompagner la transhumance, c'est possible le dimanche 22 au col du Rousset. Sur réservation, il y a un nombre de places limité. Donc il faut réserver, vous trouvez le lien sur le site internet, Fête de la Transhumance et la Clairette. Et vous pouvez donc réserver et suivre le troupeau. Alors on est obligé de faire les réservations parce que s'il y a un trop grand nombre de personnes, c'est compliqué à gérer. On est quand même avec des animaux, donc voilà, on essaye de cadrer au maximum pour qu'il n'y ait pas de débordement.
Et il est conseillé de venir sans son chien.
Il est obligatoire de venir sans son chien.
Et l'ADEME, cette organisation ovine pour la Drôme, est-ce que c'est aussi un moyen de vous montrer, d'exposer votre activité et puis ce que vous chapeautez en quelque sorte ?
Oui, c'est aussi un moyen de présenter et de faire de la sensibilisation au pastoralisme, puisque donc on est le service pastoral de la Drôme, on tient un stand bien entendu, puisqu'on est co-organisateur, et on utilise ce moment pour faire deux conférences sur les chiens de protection de troupeaux, pour sensibiliser les personnes, et ça nous permet aussi de valoriser tout ce qu'il y a autour de la transhumance. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir un programme assez fourni aussi sur ces différents points.
Les chiens, notamment, il y en a plusieurs espèces qui sont spécifiques à certaines activités de berger. Il y a donc le border collie qu'on connaît tous, mais quels sont les autres chiens ? Je sais qu'il y en a un d'une espèce qui vient des Hautes-Alpes, je crois, qui est spécialisé dans la transhumance sur route.
Alors,
j'avais fait une émission il y a quelques années lors d'une des précédentes transhumances. Donc, je ne sais pas s'il y a des propositions aussi pour...
On a deux grandes catégories de chiens. On a les chiens de troupeau, comme les border collies, qui vont permettre de... qui sont un peu l'extension du bras du berger pour le faire travailler. On a aussi les chiens de protection, qui vont être des races spécifiques avec les montagnes des Pyrénées, les Cao Delgado ou d'autres races. Mais donc pour les chiens dont vous parlez, les chiens de conduite, donc il y a le border, il y a aussi les chiens de croc, il y en a différents.
C'est le chien de croc. Oui.
Qui est souvent un petit chien plutôt noir poilu et qui est très utilisé dans l'agro, mais aussi par ici, il y a des éleveurs qui en ont. Après, chaque chien en fait a des spécificités de travail. Les border collies on ça vraiment dans les gènes, le travail avec le troupeau. Les chiens de croc aussi, mais on a des chiens, par exemple les bosserons, qui peuvent travailler aussi sur les troupeaux ovins, aussi sur les troupeaux bovins, et qui vont avoir un impact beaucoup plus fort parce que de par leur carrure et la manière dont ils travaillent. Donc chaque chien a des spécificités et en fonction de comment on veut travailler l'éleveur, en effet, il va choisir une race plutôt qu'une autre. Et donc, on va avoir la question sur ce qu'on a comme information. On a des démonstrations tout au long de la journée de travail de ces chiens sur les troupeaux.
Il y a cette transhumance, la montée sur les alpages. Est-ce que, avec ce climat, c'est de plus en plus difficile de pouvoir emmener les troupeaux et d'y trouver l'herbage?
Alors, difficile, je ne sais pas. Différent, ça varie d'une année à l'autre. Après, cette année, on a quand même pas mal d'herbes. Mais bon, le début de la saison ne dit pas forcément tout sur la suite, hein, parce que si après la pousse s'arrête et puis qu'on manque d'eau, parce que l'herbe c'est une chose, mais il faut aussi de l'eau en alpage, ça peut être un gros problème. La saison, on verra comment elle se passe. Pour l'instant, on croise les doigts, mais on ne pourra pas dire. Après, c'est plus des variations, en fait, au cours du... Ça change. On peut avoir des années très sèches, comme il y a quelques années, puis des années où ça se passe mieux et plutôt humide. Ça varie. Alors, c'est sûr qu'il y a un impact hein, du climat sur la montagne, mais... à voir comment ça va se passer. Mais il y aura des changements, oui, en effet.
Dorian, pour cette organisation, le Châtillon Andiwa a ouvert ses portes oui. Pour la troisième année. Une grande satisfaction de la ville pour cet événement?
Oui, je crois que tous les Châtillonnais, le territoire et l'ensemble des commerçants sont mobilisés autour de cette fête. Donc c'est vraiment aussi un plaisir de co-organiser avec tous les partenaires et toutes les associations et de sentir un réel soutien local et l'envie de mettre en valeur les deux axes de la fête, à la fois le pastoralisme et Châtillon-Andiwa, qui est une commune majeure et dans lesquelles les troupeaux passent naturellement pour monter en alpage. Et puis vraiment l'appellation, le vignoble, faire des balades dans le vignoble, mettre en valeur le Châtillon-Andiwa. Cette année, on aura aussi un temps de présentation et de dégustation autour des 50 ans de l'appellation, donc en fin de journée sur réservation. Et puis toutes les caves sont mobilisées, sont très nombreuses à venir pour présenter leurs différents vins. Donc c'est vraiment une joie d'être là-bas et on est très heureux de faire cette troisième année avec eux.
Il a paru évident qu'il fallait associer la transhumance et la clairette pour cette organisation.
Eh bien oui, ça peut paraître étonnant parce que c'est deux espaces différents. Il y a l'espace de l'alpage qui est en haut de la montagne et l'espace viticole qui est plutôt dans les vallées, même si le vignoble de la Clairette de Die et des Châtillons est un vignoble d'altitude qui est quand même assez élevé en altitude par rapport à d'autres. Donc c'est aussi une spécificité. Mais les éleveurs sont souvent viticulteurs ou les viticulteurs sont souvent éleveurs. Il y a beaucoup d'agriculteurs sur notre territoire qui sont pluriactifs. Donc c'est aussi une façon de montrer la diversité et la diversification de leur travail et les différents axes, les différents axes qu'ils exploitent. C'est aussi une manière d'offrir une parenthèse et une photo de ce territoire et de ces deux axes majeurs agricoles. Donc on est très heureux d'avoir deux co-organisateurs pour la porter ensemble. Et puis souvent on se retrouve quand même sur beaucoup de choses. Le milieu agricole est fédéré autour de ces deux pratiques.
Il y a notamment en journée le marché du terroir et de la création, donc la possibilité aussi de découvrir ce que sont ces artisans créateurs. Est-ce que ce sont des artisans locaux ?
Oui, on a vraiment un très grand marché. Cette année, je crois qu'il y a une soixantaine, 60 ou 70 stands de producteurs et d'artisans locaux qui sont présents à Châtillon. Et puis une vingtaine au col de Rousset. Donc ça fait quand même des beaux marchés et l'occasion de découvrir tous les artisans du territoire et les producteurs dans leur diversité de production qui peuvent être du miel, de la lavande, mais aussi les déclinaisons, évidemment, issues du vin, de la laine. Donc c'est quelque chose de vraiment très riche et c'est aussi une manière de pouvoir concocter son pique-nique, de repartir avec des souvenirs de ce territoire et de comprendre aussi la diversité des personnes qui y habitent. Donc on est très heureux de ces deux marchés. Et puis le dimanche 15 juin à l'alpage de la Moutière, ce sera aussi l'occasion d'accueillir des fromagers locaux, la maison Jaillance avec des vins et puis un casse-croûte paysan qui mettra en valeur aussi différents produits. Donc ce sera l'occasion de faire un pique-nique les pieds dans l'herbe. Donc on conclura vraiment ce week-end, on espère, au soleil et en alpage.
Comme tous les ans, il y a aussi un catering, ou du moins un endroit pour se restaurer avec des productions locales et un artisan ou cuisinier.
Oui, c'est ça. Donc, en temps de restauration majeure, on va dire, il y en a trois. Donc, du coup, le samedi midi avec le repas de la transhumance, qui est sur possibilité de réservation en amont sur notre site internet, ou sur place, il restera évidemment de la place le matin pour s'inscrire et pour prendre son repas. Le partenaire, c'est donc les boules de l'Edelweiss qui l'organisent. Et puis, on a le temps de soirée où là, on est autour des grillades d'Ivoises, frites et glaces. C'est une soirée guinguette avec de nombreuses propositions artistiques. Et on finira par la clique en fanfare et puis DJ Monette Wawa pour conclure cette belle journée. Voilà. Et puis, le lendemain, un casse-croûte en alpage. Voilà. Ce n'est pas vraiment un repas à proprement parler. L'idée, c'est de pouvoir partager un petit temps autour des produits locaux dans les pieds dans l'herbe avec le troupeau juste à côté. Donc c'est aussi une belle conclusion. Et puis l'idée de conclure ce week-end avec vraiment l'accueil du troupeau à l'alpage et son arrivée sur site.
Il y a beaucoup d'associations en partenariat avec cette organisation.
Alors, a tout un collège d'associations partenaires. Donc, on a déjà parlé du service pastoral et du syndicat de la Clairette qui sont co-organisateurs. Et puis après, on a, je crois, une dizaine d'associations sur l'ensemble de la fête. Donc, elles sont toutes partenaires logistiques et mettent à disposition leurs moyens, qui peuvent être des barnums, des tables, des guirlandes et leurs forces bénévoles pour l'ensemble de la fête. Et après, chacune à un axe. Donc, par exemple, le Festival à Révigne organise le marché de Châtillon, Bienvenue au Col de Rousset, le marché du Col de Rousset, les boules de l'EDVS, une partie des repas, plutôt du samedi midi. On a la Fédération départementale ovine, plutôt sur des axes de la laine, de la démonstration de tonte et des ateliers des dégustations. On a les jeunes loups qui sont là pour un soutien bénévole et notamment pour la tenue du bar. On a les deux offices de tourisme, à la fois Vercors, Drôme et Diwa, pour l'accueil du public et l'orientation du public et la réponse à toutes les questions. Vous retrouverez leurs coordonnées sur les sites internet, les stations de la Drôme pour leur accueil à la station, les commerçants de Châtillon et du Col. J'en oublie sûrement, les jeunes agriculteurs pour les grillades. Et pour la coordination et l'accueil.
Et puis il y a aussi un abord autour des vautours dans le Vercors.
Oui, on a aussi le soutien du parc naturel régional du Vercors qui nous aide, qui viennent faire des stands et qui viennent faire un temps de rencontre autour du vautour. Et donc les vautours, c'est aussi intimement lié au pastoralisme et aux carcasses des brebis, notamment dans leur réintroduction. Donc c'est aussi une manière détournée de parler pastoralisme et territoire. Et puis le parc va aussi parler des 40 ans de la réserve des Hauts-Plateaux, puisque cette année, c'est la 40 ans de la réserve, avec un temps de conférence et d'échange qui sera sur le col de Rousset.
Alors, on peut peut-être préciser ce qu'est une réserve ?
Eh bien, réserve naturelle des Hauts-Plateaux, c'est une réserve naturelle de France, si je ne me trompe pas, qui est un des statuts de protection les plus élevés avec les parcs nationaux. Et donc ça fait 40 ans qu'elle existe et que l'arrêté a été pris. Donc c'est aussi l'occasion de mettre en lumière les ressources, le travail des gardes et l'ensemble de leur travail pour protéger cet endroit qui est aussi un espace de partage, qui est un espace non habité mais qui a du pastoralisme, des forestiers, de la chasse. Du tourisme, donc c'est aussi un espace partagé qui nécessite d'être accompagné et préservé. C'est vraiment tout ça qui va être évoqué au sein de ce temps d'échange au col de Rousset.
Au col de Rousset, donc avec cette place prise de stand, avec tout ce qu'on peut y trouver localement, mais peut-être même au-delà.
On habite l'ensemble de la station. On est accueilli par les acteurs de cette station, avec notamment le TCH pour accéder aux alpages toute la journée. On commence la journée donc avec la possibilité de suivre le troupeau. Je ne connais plus l'horaire.
Et sinon, il y aura toujours la Clairette présente, avec des dégustations et puis des propositions qui méritent de grandes. Alors, Parce que les grandes occasions méritent de grandes bouteilles, ça c'est une proposition qui permet quoi justement ?
C'est tout simplement l'idée de faire une tombola et un temps festif autour des 50 ans et donc de gagner potentiellement un Jéroboam de Châtillon en Diois, donc une très grande bouteille. Et bien sûr, nous rappelons que la bulle d'alcool est dangereuse pour la santé.
On le rappellera toujours. Et il y a des télésièges aussi, des alpages. Ça permettra quoi, par exemple, pour le touriste ?
Alors, il peut être utilisé à plusieurs moments. C'est un ticket qui est utilisable à la journée, une fois qu'on l'a acheté. Pour les personnes qui suivront le troupeau, il permettra de regagner leur voiture sur le parking. Mais il permet aussi d'atteindre justement les alpages plus haut que la station qui est en bas au niveau du col du Rousset. Et on a aussi dans les propositions, comme à Châtillon-en-Diois, la présentation, donc démonstration de la tonte au cours de la journée, ainsi que le travail des chiens de troupeau et un stand assez fourni sur la transformation de la laine avec de la teinture végétale, du feutrage et différentes propositions.
Il y a des expositions prévues également de photos et puis d'ateliers aussi sur les laines d'Europe.
Oui, du coup, les expositions Atelier Laine d'Europe, donc elle sera aussi présente à Châtillon-en-Diois et au Col du Rousset. C'est pour présenter la transformation de la laine et les différentes laines. On a aussi une expo photo dont on n'a pas parlé tout à l'heure à Châtillon-en-Diois qui est Laine du coin et qui met en avant la laine sur une personne, justement l'association Mérilinos que j'évoquais tout à l'heure et d'une autre association avec la valorisation par les éleveurs. Et on a aussi du coup au Col du Rousset une expo photo qui est prêtée par la communauté des communes de la Vallée de la Drôme. J'ai oublié le nom.
L'équilibriste.
Ouais, l'expo L'équilibriste qui sera visible toute la journée au Col du Rousset.
C'est une exposition qu'on avait déjà accueillie l'an passé à Châtillon, mais qu'on n'avait pas eu l'occasion de monter au col. Donc on est très heureux aussi d'accueillir cela. Évidemment, donc des temps de dégustation avec les viticulteurs, un temps de rencontre pour faire l'écho entre les vins et les fromages du Vercors. Donc voilà, c'est aussi une belle journée en station. Et puis avec le télésiège, c'est aussi un accès facile à l'alpage. Donc ça, c'est très chouette. On peut aller sur les crêtes du Vercors et puis passer une belle journée.
Et puis ça permettra de voir aussi cette activité en toute sérénité pour ces transhumances, celle du pastoralisme.
Oui, et on aura du coup toute la journée le troupeau qui sera au niveau de la station et qui repartira le soir. Et le soir, la journée pourra se clore sur une soirée organisée au chalet de beurre par les personnes qui le tiennent. Donc soirée couscous, soukous avec de la musique. Donc repas et concert.
Il y aura beaucoup de musique hein, de toute manière autour de ce festival de la transhumance, que ce soit dans la vallée ou sur les plateaux. Il y a aussi des dispositions, hein, des conseils pratiques pour les randonneurs ou les personnes qui souhaiteraient évoluer hein, dans ces alpages. Lesquels ?
Eh bien, du coup, peut-être Maëva peut nous présenter les points pastoraux, on va dire les axes troupeaux.
Donc, quelques éléments en bref. Déjà, si en venant au moment de la fête, vous pouvez assister aux points sur les chiens de protection et aussi différents éléments sur le partage de l'espace en alpage en venant nous rencontrer sur notre stand. Mais rapidement, donc comme disait Dorian tout à l'heure, la montagne, c'est quand même des endroits de partage de l'espace avec des personnes qui travaillent sur ces lieux, notamment avec les troupeaux, donc, et d'autres personnes qui viennent prendre du plaisir pour partager ces zones. Et donc, il faut qu'on le fasse en bonne intelligence. Donc, notamment, quand on rencontre un troupeau, eh ben, le contourner, parce que ça paraît bête, mais qui est les chiens de protection ou non, en fait, on ne va pas traverser un troupeau parce qu'il est en train de pâturer ou de chômer, on va le déranger, donc on contourne bien. Avant, on peut préparer son itinéraire avec notamment en cherchant sur le site Pasto Quesaco, on peut retrouver la carte Map Patou qui nous indique si on va rencontrer des chiens de protection ou non. Donc, carte qui est faite par les services pastoraux et l'INRAE. Donc, on peut déjà prendre en compte ces différents éléments. Et ensuite, donc, face à un troupeau, on le contourne largement dès qu'on le peut. On évite de se balader en montagne avec nos chiens de compagnie, parce que pour pas déranger les troupeaux et aussi par rapport à la rencontre avec les chiens de protection. Et donc, face à des chiens de protection, il faut dans un premier temps rester calme, bien entendu. Les chiens, c'est normal qu'ils aboient. En fait, ça fait partie de leur travail d'indiquer la présence d'un élément perturbateur. Il faut savoir qu'ils ne voient pas net de loin, donc il faut qu'ils s'approchent pour identifier en fait ce qui est pour eux pour l'instant en danger. Donc, nous, il faut qu'on s'arrête, qu'on les laisse s'approcher, nous sentir, identifier qu'on n'est pas en danger. Quand ils se sont calmés, on peut continuer notre chemin en contournant. Il faut bien entendu, si on a des bâtons de marche, ne pas les lever, les garder le long du corps, ne pas jeter de pierres sur des chiens. Ça serait complètement illogique, ça indiquerait qu'on les menace. Et pas les regarder dans les yeux pour pas qu'ils prennent ça comme une menace. Plutôt détourner le regard, ne pas leur tourner le dos, mais ne pas être frontal en fait, hein, comme avec une personne, ne pas inciter à être menaçant. Et puis rester calme, leur parler, on peut bâiller aussi, ça apaise le chien. Et il faut avoir ça en tête, que si nous on est apaisé, les chiens le sont aussi.
Voilà, la fête, c'est aussi l'occasion de reparler de tout ça en direct avec les services pastoraux, avec les éleveurs, avec les bergers, et d'échanger autour de ça, autour de la pratique de la montagne. Donc, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais voilà, les chiens de compagnie sont du coup interdits sur la fête, aussi pour voilà, le partage de l'espace avec les bergers, les troupeaux, les brebis et les autres animaux. On peut redire aussi quelques infos pratiques sur la fête. Il n'est pas possible de suivre les troupeaux dans leur déplacement en dehors du col de Roussès sur réservation. Et puis, un troupeau, c'est évidemment des bêtes. Donc, s'il fait froid, ça marche plus vite. S'il fait chaud, ça marche moins vite. Parfois, ça peut rencontrer des aléas. Donc, les horaires sont donnés à titre indicatif. Et puis, pour l'ensemble du week-end, on conseille évidemment d'avoir des vêtements, des chaussures adaptées pour pouvoir aller en alpage et en montagne. Voilà, et qu'est-ce qu'on pourrait dire
se munir d'eau.
On espère qu'il fera très beau, mais même s'il fait mauvais, on fera quand même la fête.
Et se munir d'eau également.
Et se munir d'eau, évidemment. En alpage, il n'y a pas de distributeur de billets, il n'y a pas de fontaine à eau. Et voilà, il n'y a pas non plus de poubelle. Donc, c'est aussi de la pédagogie, de la sensibilisation, de dire que chacun en alpage doit ramener ses déchets avec lui et faire le tri chez soi.
C'est en quelque sorte cette organisation de la transhumance et de la fête de la Clairette un avant-goût hein, de ce qui attend aussi Châtillon pour Arrévigne hein, début août. Ce festival justement Arrévigne a l'exclusivité de cette eau qui se change en vin à la fontaine.
C'est deux festivals vraiment différents dans leur approche, dans leur fonctionnement et dans leur organisation. Donc voilà, ça c'est spécifique à la fête du vin et à l'ouverture du festival. Là, on est sur autre chose. Et puis le festival n'est pas porté par la même structure. Donc voilà, on essaie de rester partenaire et de pas réaliser les mêmes éléments. Voilà. Et puis on est à deux temps aussi différents, on est à un mois et demi d'écart, donc voilà, on n'est pas sur les mêmes publics. Je pense que le public de la fête est un public d'abord familial et un public de l'ensemble de la région, ce qui est aussi le cas d'Arrévigne, mais avec des temps beaucoup plus festifs et plus culturels, avec tout un axe vraiment développé art, évidemment, avec les galeries, les concerts, une programmation conséquente, voilà, de nombreux autres axes. Qui sont très intéressants. Donc, c'est deux événements qui permettent de découvrir le beau village de Châtillon.
Les deux premières années ont été plutôt sereines quant à l'affluence du public. On peut estimer une jauge de combien de personnes, de visiteurs ?
Eh ben pour l'instant, on n'a pas été très gâtés en termes de météo sur les deux premières éditions. Donc, on a souvent subi des petits orages ou un temps couvert. Ou l'année dernière, il a fait aussi des petites averses. Et puis, il pleuvait à Die. Il pleuvait pas à Châtillon, mais il pleuvait à Die et dans la vallée. Donc, ça donnait pas très envie de monter jusqu'à Châtillon. Mais on est sur l'ensemble et sur les trois jours, on peut dire entre 5 et 6 000. Mais sur Châtillon, on va dire aux alentours des 4 000. Sur l'alpage, on sera... bien moins nombreux. Il faut quand même être motivé, hein. L'alpage de la Moutière, c'est à 18 km de Châtillon, donc le troupeau marche tout le soir et tout le matin pour arriver jusque là-bas. Et puis sur le col de Rousset, on est un peu plus de 1000. Enfin voilà, après ces jauges-là, elles sont très difficiles à estimer parce qu'on est sur des sites ouverts, on peut pas comptabiliser les personnes une par une, mais voilà, c'est à peu près les estimations qu'on donne et qu'on nous transmet.
Tous ces renseignements, on peut les trouver aussi sur un site internet, lequel ?
Oui, c'est donc le site internet de la fête, il est pour l'événement, c'est www.fete-transhumance.com. Voilà, après si on tape dans un moteur de recherche fête de la transhumance Châtillon-Diois ou col de Rousset, normalement on tombe dessus sans problème. Et après le contact privilégié pour toutes les questions d'hébergement, les questions d'accueil, les questions d'orientation, etc. Il y a l'Office du tourisme du Pays d'Iois qui fait gentiment notre standard. Donc on les remercie pour ça et qui sont présents aussi en point info sur l'événement. C'est 04 75 22 03 03 et vous tombez à l'OT de Die.
Maëva, vous-même, qu'est-ce qui vous a amené dans cette organisation de la fête de la transhumance et de la clairette ?
Donc moi je suis technicienne au service pastoral de la Drôme et c'est notre structure qui depuis trois ans, enfin c'est la troisième année, co-organise. Avant la fête de la transhumance qui se faisait à Die n'était pas portée par nous. Puis avec le syndicat, donc on a décidé ensemble de porter la fête de la transhumance et de la clairette. Donc au sein de ma structure, c'est moi cette année qui gère ça parce que ma collègue du coup m'a laissé cette organisation. Je trouve ça très intéressant. Je suis très intéressée par les troupeaux, tout ce qui touche au pastoralisme en fait parce que c'est mon travail et en plus je suis dioise. Donc valoriser ça au sein d'une fête à Châtillon. Pour moi, ça me tient à cœur et donc c'était aussi, j'étais très contente de travailler sur ce sujet-là. En plus, ça permet, je trouve, de sensibiliser les publics aux enjeux liés au pastoralisme que peu de personnes connaissent réellement.
Dorian et Maëva, merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous présenter l'édition 2025 de la fête de la transhumance et de la clairette. Ça sera du 14 au 22 juin.
Super, merci beaucoup.
Et si je peux me permettre, je vais remercier tous nos financeurs et les entreprises qui nous soutiennent parce que sans elles et sans eux, on ne pourrait pas maintenir cette fête. Merci à tous.
Bonne soirée. Ouais.